Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène à Atlanta dans l'état de Géorgie aux États-Unis. C'est une ville à l'économie florissante, au temps clément et à l'histoire fascinante. Elle est notamment considérée comme le berceau du mouvement des droits civiques, le mouvement social qui défend l'abolition de la discrimination et exige une loi équitable pour tous les citoyens des États-Unis. C'est d'ailleurs à Atlanta que naît et vit Martin Luther King, leader du mouvement jusqu'à son assassinat à Memphis en 1968. Le symbole de la ville est un phénix et sa devise est « résurgence » en latin, « résurgence » en français. La musique est une partie intégrante de l'identité culturelle de la ville qui a d'ailleurs produit de grands artistes qui ont marqué l'industrie musicale tels que Ray Charles ou encore Outkast. Hip-hop, R&B et rap y sont encore aujourd'hui très établis et la scène y est très riche. Cela dit, tout n'est pas rose à Atlanta. Selon un rapport du FBI, le taux de crimes violents a augmenté de plus de 334% entre 2022 et 2023. La ville a un taux de criminalité très élevé comparé aux autres villes de la même taille. Évidemment, tous les quartiers ne sont pas touchés et de nombreuses communautés aisées se portent très bien sous bonne surveillance policière. Mais il y a des quartiers où la violence est quotidienne et où les patrouilles sont moins fréquentes. Le quartier d'Oakland City, situé au sud-ouest de la ville, est l'un de ces quartiers dangereux. Le nombre de crimes par habitant y est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. 5824 crimes par 100 000 habitants rien que dans le quartier d'Oakland City, contre 2324 crimes par 100 000 habitants dans le reste du pays. C'est justement dans le quartier d'Oakland City que Bridget Shill pose ses valises pour démarrer sa vie de jeune adulte. Bridget naît en 1997, elle grandit à Washington avec ses grands-parents Beverly et Jim Toole et son frère Brandon dans une famille militaire. Bridget, c'est une enfant dynamique, elle fait de la danse classique, du foot, elle est aussi théâtrale et aime donner de l'importance aux petites choses de la vie. Mais dès son plus jeune âge, la petite Bridget lutte contre ses démons. Elle n'a jamais connu son père, elle a été retirée de la garde à sa mère qui souffre d'addiction. Toute son enfance, elle souffre de ses kilos en trop et les enfants de son école se moquent d'elle sans merci. On sait comment peuvent être les enfants. La pauvre Bridget, bien que soutenue à la maison par des grands-parents aimants et son grand frère avec qui elle s'entend très bien, souffre beaucoup de ses moqueries. Elle n'a pas confiance en elle, elle encaisse mal. Arrivée à l'adolescence, elle se met à prendre de mauvaises décisions, elle sèche les cours, elle a des fréquentations douteuses et tout ça rend sa vie un peu dangereuse. Quand elle décide d'aller vivre chez sa mère à Atlanta, à 600 km de Washington, sa grand-mère et toute la famille l'acceptent. Un nouveau départ, ça peut être une bonne idée. Et ça semble partir du bon pied. Chez sa mère, Bridget recueille les animaux souffrants. Elle adopte un jour un chien qu'elle retrouve affamé, abandonné, attaché à un arbre. Les enfants peuvent être méchants, mais les adultes peuvent être des monstres. Bridget va soigner ce chien et elle va aussi soigner et nourrir deux chatons de 3 semaines qui venaient chercher de l'aide sous le patio. Bridget se plaît à Atlanta, elle fréquente l'école Empire Beauty School d'Unwoody pour devenir coiffeuse. Et en même temps, elle se rapproche de son rêve de devenir modèle. Elle est approchée pour figurer dans le clip d'une chanson de Chris Waddle. Quand on la voit dans ce clip, on est subjugué, elle est incroyablement belle, elle a une vibe incroyable, elle est pétillante, pleine de vie. Elle semble tout à fait savoir ce qu'elle fait et elle a l'air d'être à l'aise dans ce milieu. Il y a des millions de jeunes femmes dans le monde qui rêvent de devenir mannequin et Bridget, qui en fait partie, voit à 19 ans seulement son rêve prendre forme et devenir réalité. Mais l'envers du décor n'est pas aussi parfait. Sa mère veut que Bridget termine sa formation et trouve un emploi. Façon traditionnelle, la relation entre mère et fils se dégrade et Bridget quitte le domicile de sa mère. On ne sait pas vraiment si elle a été mise à la porte ou s'il s'agit d'une décision de la part de Bridget. Ce qu'on sait, c'est qu'heureusement, elle ne se retrouve pas à la rue. Elle emménage chez son copain, Kevin Kenny. Ça fait quelques semaines qu'ils se fréquentent, mais ni les amis ni la famille de Bridget ne l'apprécie vraiment. Il a 2 ans de plus qu'elle, bon ça encore ça va, par contre il est membre d'un gang et il a déjà fait de la prison pour des vols et des cambriolages. Dans cette maison où Bridget s'installe avec Kevin, il y a aussi Brittany Olaka et son fils. Son fils, dont le père, est Kevin. Brittany et Kevin se sont séparés mais ils vivent sous le même toit, avec maintenant Bridget, qui est la nouvelle copine de Kevin. D'après certaines théories, ce format de couple et de vie est assez fréquent dans les affaires de prostitution, d'exploitation et de gang. Un proxénète et ses travailleuses. Et justement, très peu de temps après avoir rencontré Kevin, Bridget démarre une nouvelle profession. Des annonces sur le site Backpage montrent Bridget proposant ses services en tant qu'escorte. Backpage, c'est un site similaire à Craigslist ou Le Bon Coin en France. Le site a fermé en 2018 après une enquête du FBI qui a démontré qu'il facilitait justement la prostitution et aussi le blanchiment d'argent. Oh, merde. Les profils de Bridget sous le nom de Nastia ou Spice montraient des photos et des mots très explicites. On pouvait y lire « Mon but est de satisfaire de la manière la plus désirable ». Ces pages ont été supprimées avec la fermeture du site internet. Beverly, sa grand-mère, doute de la volonté de Bridget à mener une telle activité. Elle pense que Kevin l'a poussée à devenir escorte. Kevin nie cette accusation. Il est possible que Bridget commence simplement à vendre ses services pour se faire de l'argent rapidement. À ce moment, elle veut retourner vivre à Washington et retrouver une vie paisible. Comme tu l'as sûrement compris, avec Kevin et Brittany, c'est pas tout repos et la violence est constante. À tel point qu'en février 2016, le 911 reçoit un appel. C'est Bridget, une altercation a eu lieu avec Kevin, il l'a frappée au visage. Elle demande une ordonnance restrictive contre lui. Elle ne souhaite pas porter plainte parce qu'il l'a menacée. Si la police est impliquée, il la tue. Deux jours plus tard, le 14 février 2016, la police intervient chez Kevin. Cette fois-ci, c'est Brittany et Bridget qui en sont venues aux mains. Elles se battent au sujet de Kevin. En même temps, ils vivent à trois sous le même toit. T'imagines bien qu'il y a des embrouilles qui peuvent arriver. La police intervient donc et emmène les deux femmes pour passer une petite nuit en cellule. Bonne Saint-Valentin. Quelques mois plus tard, le 30 mai 2016, Bridget est en chemin pour se rendre chez une amie. Elle l'appelle vers 23h pour la prévenir. Elle doit d'abord passer acheter 2-3 bricoles et ensuite elle la rejoint. Elle est vue vers 23h30 à une station-service, mais Bridget n'arrivera jamais chez son amie. Vers 7h le matin du 31 mai 2016, un corps est retrouvé dans le parc d'Oakland City. Un passant fait la terrible découverte alors qu'il se promène. Il voit une meute de chiens sauvages qui semblent excités et intrigués. Il les chasse et il tombe sur un corps nu, criblé de balles. Il appelle les autorités vers 6h50. Il vient tomber sur une personne qu'il pense être seulement blessée sur la pelouse proche du terrain de basket. Les autorités arrivent très vite et balisent la scène de crime. C'est le détective André Lowe à la brigade des homicides depuis 3 mois qui prend l'affaire en main. La jeune femme est nue, ni ses habits, ni son sac, ni aucune de ses affaires ne se trouve sur place. Autour d'elle, personne, pas d'armes, pas de traces de pas, aucun indice. Le Sherlock Holmes sage va être long. Elle a reçu 6 balles dans le dos, les fesses et les jambes. Et les balles choisies sont très spécifiques, non seulement barbares, mais surtout, elles témoignent d'une chose importante, une volonté claire de tuer. Ce sont des munitions qui s'appellent des projectiles radicalement invasifs, ou RIP bullets, des munitions qui explosent à l'impact de leur cible, détruisant tout sur leur passage. Quand on voit cette démonstration de leur fonctionnement, c'est terrifiant. Pour nous Français, chez qui le port d'armes est quasiment interdit, il est difficile d'imaginer qu'un tel design de munitions puisse exister. Tous les impacts se situent dans le dos de la victime. Elle est abattue alors qu'elle essaie de s'enfuir, tournant le dos à son assassin. Les angles de certaines balles sont de haut en bas. On comprend donc qu'elle est déjà au sol, probablement déjà morte ou presque, et des balles continuent de pleuvoir. Il semblerait aussi que le corps a été déposé à l'endroit où le passant le retrouve après avoir commis ce meurtre ailleurs. Il y a peu de sang autour de la victime et on ne retrouve aucune cartouche. Pas de sac, pas de téléphone, pas de papier d'identité, il faut trouver qui est cette femme. Le corps est identifié seulement 3 heures après la macabre découverte grâce aux empreintes digitales. Son identité sera confirmée aussi grâce à ses tatouages, notamment un tatouage Hello Kitty avec un AK-47. Mais un tatouage en particulier attire le regard. « Despite all odds, I'm here ». En français, « Malgré tout, je suis toujours là ». Il s'agit bien sûr de Bridget Shill. Elle meurt à l'âge de seulement 19 ans. La famille est prévenue, puis la police fait une conférence de presse pour annoncer la mort de la jeune femme et faire un appel à témoins. La communauté est atterrée, ses amis font de nombreuses publications sur les réseaux sociaux en son hommage. Le lendemain, la voiture de Bridget est retrouvée à plus de 30 km de la scène de crime. Elle est garée derrière le restaurant King's Southern Delight, dans le comté de DeKalb. Ses vêtements sont retrouvés par terre, à peine dissimulés, pas loin de sa voiture. Son sac à main est aussi retrouvé près de la voiture. Tout son argent a disparu, elle est connue pour garder sur elle l'argent en espèces qu'elle gagne lors de ses prestations d'escorte. Tout le sac est en ordre, seule la poche où se trouve l'argent est vide. Est-ce que ça pourrait être un braquage, un meurtre aussi violent soit-il, seulement pour lui voler son argent? Une bouteille de Sprite est aussi ramassée et placée sous scellé. Aucun autre indice n'est retrouvé sur cette seconde scène de crime. Ce qui est arrivé à Bridget est horrible et d'une violence inouïe. L'enquête commence avec très peu de pistes. Après avoir fouillé la scène, la police a bien peu d'éléments pour avancer. L'unité canine est envoyée sur place pour approfondir la fouille. On ne découvre rien. Il y a très peu, voire pas de sang sur place. Aurait-elle été tuée ailleurs? On constate qu'il y a une caméra dans le parc. Peut-être qu'elle parlera. Une Ford Fusion est repérée sur les images vers minuit et demi, une 4 portes, comme la sienne, mais difficile à confirmer à 100%. La voiture entre sur le parking et fait demi-tour, rien de plus n'en ressort. Les enquêteurs continuent de chercher des témoins et remontent le fil de la soirée de Bridget. Les distances font percuter les enquêteurs, la station essence où habite Bridget et où elle est vue en vie pour la dernière fois se trouve dans le même pâté de maison que la maison de l'ami chez qui elle doit se rendre et de l'endroit où sa voiture est retrouvée. Mais son corps, lui, est retrouvé déposé à plus de 30 km. Pourquoi ? Les enquêteurs cherchent des témoignages qui permettraient de comprendre le déroulé de la soirée de Bridget. Le 30 mai, elle vit près de la station-service BP, elle doit passer à la boutique avant de rejoindre son ami. À 23h, elle appelle son ami pour la prévenir, jusque-là tout va bien. Elle ne lui dit pas dans quel magasin elle va, mais il y a une station essence juste à côté d'elle, donc elle imagine que c'est là qu'elle va. Le témoin dit ensuite qu'une autre femme, une sans-abri ou marginale, demande de l'argent au client de la station ce soir-là. Elle s'approche de la voiture de Bridget, elle parle avec l'homme qui est place conducteur. Les enquêteurs se procurent les vidéos de surveillance de la station Shell. On y aperçoit un coin de la voiture. Malheureusement, on ne voit pas le visage des deux hommes. Par contre, les enquêteurs repèrent cette femme qui achète un blunt, c'est une feuille de tabac qu'on utilise pour rouler de l'herbe thérapeutique. Elle achète aussi une canette de coca. Elle sort de la boutique, puis elle entre à nouveau et achète une bouteille de Sprite. Ensuite, elle est vue retourner parler aux personnes dans la voiture, et quand elle est interrogée, cette femme dit qu'elle ne se souvient pas de cette soirée-là. Elle ne peut rien dire sur les hommes en question. Ou bien elle n'a pas de souvenirs, ou bien elle ne les connaît pas et ne peut rien dire. Ou alors elle a peur et elle décide de taire leur nom. Le véhicule quitte ensuite le parking de la station Shell et fait tout un détour par le nord d'Atlanta en direction du parc Oakland au sud-ouest de la ville. Vers 1h30, cette même nuit, un appel au 911 rapporte des coups de feu dans le parc. Une équipe de police se rend sur place mais ne trouve rien. Le corps de Bridget est retrouvé dans ce même parc le lendemain matin. Le 1er juin, on retrouve la Ford Fusion Bordeaux de Bridget cachée à côté de la station BP où elle vivait. Donc à 3 km de la station Shell où elle a été vue pour la dernière fois en compagnie des deux hommes et à plus de 30 km de là où son corps est retrouvé. On retrouve aussi dans cette voiture un oreiller, un drap, ses vêtements, tous ses habits, ses bijoux, c'est toute sa vie qui est contenue dans ce véhicule. Les enquêteurs y trouvent aussi ses chaussures et ses sous-vêtements. Il semble qu'elle ait été déshabillée dans la voiture ou aux alentours. Le jean et le haut bleu qu'elle portait ce soir-là sont retrouvés à côté de la voiture. Le corps de Bridget ne comporte pas de traces de viol, mais il est plus que possible qu'une agression sexuelle ait eu lieu. A priori, aucun ADN n'est retrouvé dans le véhicule. On retrouve aussi autour de la voiture un papier de blunt, une canette de coca et une bouteille de Sprite. Il y a de l'ADN sur le corps de Bridget. Ce même ADN est également sur la bouteille de Sprite. Il y a peu d'éléments matériels, donc on se penche sur l'histoire de la jeune femme. Son entourage est interrogé et sa vie est passée au crible. Le soir du crime, elle publie des photos et des vidéos sur Snapchat. Elle danse, elle semble heureuse. À 22h30, elle poste un snap. C'est une photo de sa jambe. Elle marche dans l'herbe et on peut y lire la légende « Trop jolie pour marcher dans la boue ». Ensuite, elle appelle son amie sur FaceTime à 23h30. Son amie dira que Bridget ne paraissait pas particulièrement stressée. Elle lui dit pendant cet appel qu'elle arrive, elle doit passer acheter des bricoles avant d'arriver, mais elle est en route. Le plan de se retrouver tient toujours. Son amie sera étonnée qu'elle soit vue à la station Shell, alors que la boutique de la station BP est proche de là où habite Bridget, mais aussi à 2 minutes de chez son amie. Pourquoi elle serait allée plus loin? Le jour du crime, Bridget tente d'appeler sa grand-mère. L'appel n'aboutit pas, mais elle envoie un message en disant ma grand-mère chérie, je t'aime. La veille du drame, elle appelle sa grand-mère et lui raconte que ça ne va plus avec Kevin. Sa grand-mère lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse prendre ses affaires et aller dormir ailleurs, dans un motel, par exemple, et on réfléchira ensuite à ce qu'on fait après. Sa grand-mère lui pose peu de questions sur sa manière de vivre, puisque sa mère le fait déjà beaucoup et maintenant elle a perdu le contact avec Bridget. Beverly craint de mettre sa petite fille en colère et que, par conséquent, elle refuse de lui parler à elle aussi et qu'elle se retrouve seule au monde. Donc elle ne veut pas l'embêter à poser trop de questions. Quelques semaines auparavant, Bridget aurait dit à une de ses amies qu'elle pense être enceinte. Elle ne veut pas le dire à Kevin, mais quand Kevin est interrogé, il dit qu'il est au courant, ils en ont parlé. Il pensait qu'elle montait au début un stratagème pour le récupérer. L'annonce de cette grossesse lui fait peur, si ça se sait et que ça pose problème, il pourrait perdre son fils, celui qu'il a avec Brittany, l'ex avec qui il habite. L'autopsie va cependant démentir. Au moment où elle est retrouvée assassinée, Bridget n'est pas enceinte. La rumeur dit alors qu'elle aurait interrompu volontairement cette grossesse. Aucune information de la police ne dément, ne valide ou n'approfondit sur le sujet. Des témoignages téléphoniques de certains amis vont incriminer Kevin. Un ami de Bridget, qui reste anonyme, dira à la police « Elle vivait avec Kevin et elle m'a souvent dit qu'elle avait peur de lui. Il la battait, il la frappait. Elle m'a dit qu'il avait braqué son arme sur elle. » Le détective Lowe est aux anges, il se dit qu'il tient le coupable. Kevin est alors interrogé. Il dit que Bridget et lui sont séparés depuis un moment et il ne l'a pas vue depuis 2 jours. On lui dit qu'elle a été vue à la station-service et il répond « Depuis que sa mère l'a mise dehors, c'est là qu'elle dort. » Brittany est aussi interrogée dans la foulée. Elle dit que tout ce qu'elle sait, c'est que Bridget b*** avec son mec. Il a quitté Brittany pour être avec elle, ils vivaient ensemble, mais ça ne se passait pas bien. Elle ne cache pas qu'elles se sont battues. Et elle dit qu'après leur dispute, ils ont discuté tous les trois, et la situation s'est apaisée. Puis Kevin a quitté Bridget pour rester avec elle, avec Brittany. Et c'est tout ce qu'elle sait. Ils ont d'ailleurs tous les deux passé la journée du meurtre ensemble, avec leur fils. Ils sont tous les deux écartés de la liste des suspects. Mais la grand-mère de Bridget, Beverly, n'en démord pas. Kevin et ou Brittany sont responsables du meurtre de sa petite fille, de près ou de loin, mais elle sent qu'ils sont impliqués. À ce jour, ils ne sont pas cités ni suspectés dans l'affaire. Les mois passent et l'enquête stagne. La police offre une récompense de $10 000 pour toute information permettant d'identifier le coupable, mais rien de plus n'apparaît. Ce n'est qu'en janvier 2017, soit 8 mois après le meurtre de Bridget, que le major Adam Lee annonce qu'ils ont un ADN dans l'affaire et qu'il s'agit d'un ADN masculin. Mais il n'y a pas de correspondance dans les fichiers du CODIS, la base de données ADN américaine. Quelques pistes sont suivies, mais elles ne mènent nulle part. 2 suspects sont interrogés, mais ils seront innocentés parce que leur ADN donné volontairement ne matche pas avec celui détenu au scellé. 8 mois après le début de l'enquête, toujours rien. Kevin apparaît dans un sujet de Crime Watch Daily. Il reconnaît que la police l'a suspecté, pire encore, qu'il était le suspect numéro 1. Selon lui, c'est juste parce qu'il est son dernier petit ami connu. Et comme on le sait, leur situation amoureuse, assez unique et atypique, intrigue. Il est interrogé quant à l'appel 911 de Bridget, qui demande une mesure d'éloignement à son encontre. Il dit qu'il n'est pas au courant. Évidemment, il dit qu'il n'a jamais frappé Bridget, il nie être membre d'un gang, il dit ne rien savoir sur les gangs, il a passé du temps en prison, certes, mais ses infractions étaient toutes non-violentes. Quant aux annonces Backpage pour les services d'escorte, il était au courant, mais selon lui, elles datent d'avant que Bridget ne vienne vivre avec lui et Brittany. Il dit que lui, justement, il cherchait à l'aider à se sortir de cette vie. La veille de sa mort, et après seulement quelques semaines à vivre ensemble, le triangle ne fonctionne pas et Kevin demande à Bridget de partir. Lui choisit Brittany et leur enfant. Au cours de ce reportage, Kevin nous sort même la larmichette. Est-ce qu'il fait du cinéma? C'est fort possible vu qu'il ment sur son côté violent. L'interview ne nous en apprend pas beaucoup plus. Kevin donne une assez mauvaise impression. Il ne donne pas vraiment l'image d'un homme totalement innocent. Aurait-il un mobile pour le meurtre de Bridget? Son activité au sein d'un gang, même s'il dément, pourrait être liée ou avoir causé ce meurtre. Le journaliste lui demande s'il est affilié au gang nommé les Disciples. Kevin répond qu'il ne sait rien des gangs. « Je ne suis affilié à aucun groupe, je vous le garantis à 100% », dit-il. « Si Bridget n'était pas morte, je l'aurais sûrement épousée et elle porterait une très grosse bague au doigt. » Et puisqu'on parle de mobile, la police de son côté émet des hypothèses pour aller vers de nouvelles pistes. Une dispute de couple, une dispute avec un client, une dispute avec un proxénète. Mais le détective Vincent Velasquez de la police d'Atlanta dira à ce sujet « Il n'y a pas de preuves qui suggèrent que la victime ait fait partie d'un réseau de trafic sexuel à Atlanta ou ailleurs. Un an après le meurtre, l'enquête piétine toujours. Une conférence de presse est donnée dans le parc. Le détective Lowe et la grand-mère de Bridget, Beverly, demandent l'aide de témoins. Ils déposent également des prospectus dans les boîtes aux lettres des quartiers, dans lesquels le téléphone de Bridget a borné le soir du meurtre, espérant ainsi de nouvelles pistes, mais rien. Pas d'indice, pas d'appel, pas d'email, rien. Il va donc falloir se pencher sur les deux hommes à qui Bridget a parlé le soir du meurtre. Qui sont-ils? Que faisaient-ils dans la voiture de Bridget? Est-ce qu'ils sont impliqués dans son meurtre? Mais sans réponse à la première question, qui sont-ils? Impossible d'avancer. Le seul espoir, c'est d'attendre une correspondance ADN. Et c'est en juin 2018, 2 ans après le meurtre de Bridget, que l'enquête a enfin du nouveau. L'ADN relevé sur le corps de la jeune femme et sur la bouteille de Sprite correspondent avec un profil répertorié au CODIS. L'homme en question s'appelle Christopher Crisco Spencer. Il a 28 ans au moment où il est découvert et il est plutôt facile à trouver. Il est en prison. Ce charmant jeune homme effectue une peine de prison à perpétuité pour l'un des 4 meurtres dont il est accusé. Et c'est d'ailleurs pour ça que son ADN a été ajouté au fichier CODIS et que la correspondance a pu être établie. Christopher Spencer est officiellement accusé du meurtre de Bridget. Qui est Christopher Spencer? On a peu d'informations sur sa vie. On sait qu'il est membre du gang Rollin' 20 Crips. C'est une division du célèbre gang des Crips. Originaire de Californie, ce gang est connu pour son lien avec de grandes personnalités comme Snoop Dogg ou encore Nate Dogg. Leurs activités de prédilection sont le racket, le trafic de drogue et d'armes à feu, le vol de voitures, le braquage, le cambriolage à main armée, l'extorsion, la fraude, en fait presque tous les crimes, quoi. Le gang voit en Atlanta une terre fertile et vient s'y installer. Christopher devient un membre régulier et s'installe dans un appartement partagé entre frères de gang à l'est d'Atlanta. On ne sait pas grand-chose sur l'enfance de Christopher, on sait seulement qu'il évolue dans le milieu des gangs et de leur violence depuis qu'il a au moins 20 ans. Dans les mois qui suivent le meurtre de Bridget et en compagnie de ses collègues de travail, la violence se décuple et il laisse de nombreuses vies anéanties sur son passage. La première de la série, c'est Bridget, mais 4 autres suivront. Le 24 octobre 2016, dans la jolie ville de Stone Mountain, un riverain de la résidence Park à East Ponce entend, pour reprendre ces mots, pop, 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 comme des coups de feu. Vers 20h45, Lamont Walker revient à la colocation qu'il partage avec Sylvia Watson, 57 ans, Samuel White, 54 ans, et leur chat. Il tombe sur les corps de ses colocataires sans vie. Ils sont ligotés, ils ont été assassinés d'une balle dans la tête. L'enquête révélera que Sylvia, en rentrant chez elle, est vue dans sa Honda Civic grise par une caméra de surveillance à l'entrée de la résidence. Quelques minutes plus tard, une Ford Expédition de couleur bleue entre également. Environ 7 minutes plus tard, la Honda de Sylvia est filmée à nouveau, sortant de la résidence, et cette fois-ci, elle n'est pas seule. 2 hommes sont assis avec elle. Pendant l'heure qui suit, la carte de crédit de Sylvia sera utilisée dans 4 distributeurs aux alentours. Les vidéos de surveillance des banques filment un homme en sweatshirt qui trimballe Sylvia de distributeur en distributeur pour tenter de retirer de l'argent. Et elle semble terrifiée. De retour à la résidence Park, à East Ponce, les 2 hommes mettent Sylvia et Samuel au sol, ils les ligotent et ils leur tirent une balle à l'arrière de la tête. 2 cartouches de 380, des armes plutôt petites, faciles à manier et peu coûteuses par rapport à, par exemple, un 9 mm, sont retrouvées à côté des corps des 2 victimes. Un gobelet en plastique a été oublié dans la Honda de Sylvia. Sur celui-ci, des empreintes digitales sont relevées et elles correspondent avec celles de notre cher Christopher Spencer, qui est déjà dans le système. En fouillant l'appartement du gang où réside Christopher, la police retrouve l'attirail parfait du petit gangster, ainsi qu'un bricot 380 semi-automatique. Après analyse, c'est bien l'arme qui a servi au double meurtre. Le sweatshirt de Christopher, vu sur les vidéos des caméras de surveillance, est aussi retrouvé. Il comporte des traces de poudre. Le 2 novembre 2016, une semaine après ce double meurtre, Christopher Spencer est arrêté. On remonte un peu dans le temps au 22 octobre 2016, au beau milieu de la nuit, dans la ville de Jonesboro, à une 30aine de kilomètres au sud d'Atlanta. Un groupe de gangsters force la porte d'une maison, entre, tire, puis ressort et prend la fuite. Tatiana Coates, 11 ans, et Devon Coates, 15 ans, sont tués au beau milieu de la nuit alors qu'ils dorment. Dans la maison se trouvent d'autres enfants âgés de 6 à 13 ans, et c'est l'un d'entre eux qui appelle la police pour signaler les meurtres. Après 1 an et demi d'enquête, la police annonce que 11 hommes sont suspectés dans l'affaire et tous sont membres des Crips. L'un d'entre eux est même professeur dans une école primaire. Ils étaient à la recherche de DeAndre Mitchell, un adolescent de 15 ans, membre du gang également et qui leur avait volé des armes. Il l'avait menacé de répercussions sur les membres de sa famille s'il ne les rendait pas. Lui a fui dans le Tennessee en portant les armes avec lui. En mars 2018, un jury condamne les 11 accusés de 54 charges dans le cadre des meurtres de Tatiana et Devon. D'autres charges incluent cruauté envers des enfants et activités de gang. Notre cher Christopher Spencer prend alors perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, et une peine de 30 ans de prison supplémentaire. En novembre 2016, quand Christopher est arrêté et accusé des meurtres de Sylvia et Samuel, son ADN est prélevé. Il reste en détention jusqu'en mars 2018, où, condamné pour les meurtres des deux adolescents, il est transféré dans la prison d'État de Géorgie. Il faut attendre juin 2018 pour que la correspondance soit établie dans l'affaire du meurtre de Bridget. Et tu te demandes sûrement pourquoi et qu'est-ce qui a pris aussi longtemps. Le major de la police d'Atlanta, Michael O'Connor, dit que rien ne liait Christopher au meurtre de Bridget Shill avant qu'il ne soit admis à la prison d'État. On avait très très peu de pistes et d'informations, dit-il. On n'avait pas de témoins qui pouvaient identifier le suspect. On n'avait pas le visage des suspects sur la vidéosurveillance. On n'avait pas grand-chose pour avancer. Et à un moment donné, on a pu obtenir l'identification. À ce moment-là, on n'était plus dans l'urgence, il était déjà en prison à perpétuité et sans possibilité de libération. Fin de citation. Par respect pour la famille, ça aurait été quand même sympa de pas laisser le truc en pause. Christopher nie son implication dans le meurtre de Bridget, il dit qu'il n'a jamais rencontré la jeune femme. Mauvaise réponse, l'ADN ne ment pas. Bien que les enquêteurs n'aient pas de mobile clair pour ce crime, Christopher Spencer, 28 ans, est officiellement accusé du meurtre de Bridget Shill. Je te fais un petit résumé du CV criminel de Crisco Christopher Spencer. En mars 2018, il est reconnu coupable des meurtres de Tatiana Coates, 11 ans, et Devon Coates, 15 ans. En mai 2020, il est accusé par un jury des meurtres de Sylvia Watson, 57 ans, et Samuel White, 54 ans. Il fait appel, mais son appel est rejeté. En mars 2019, il est, alors en anglais, c'est indicted, c'est-à-dire qu'il est mis en examen par un jury dans le meurtre de Bridget Shill, 2019. Et alors la traduction de ce mot littéral, donc c'est mis en examen, mais il y a une différence avec accusé. C'est une question de vocabulaire et de processus légal. Aux États-Unis, c'est une spécificité. L'accusation formelle d'un criminel par le vote à la majorité d'un jury. Donc la différence majeure, c'est qui accuse. Ici, c'est un jury et pas un procureur, comme dans le cas d'autres accusations. Christopher est bien accusé officiellement du meurtre de Bridget Shill. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais comme le dit le major Michael O'Connor, rien ne presse, il est déjà en prison. La date du procès n'est pas annoncée. De nombreuses questions restent ouvertes dans cette affaire. Pourquoi Christopher a-t-il tué Bridget? Est-ce que c'était un crime ciblé, un crime d'opportunité? Est-ce qu'il a profité de son isolement, de sa profession qui pouvait la mettre en danger? Aucun motif n'a pu être avancé dans cette enquête, en tout cas pas à ce jour. La police ne pense pas qu'il s'agisse d'une affaire de gang. Bridget n'a aucune attache avec les Rolling 20 Crips. Christopher, de son côté, n'a pas avoué le meurtre, ni toujours avoir vu Bridget ce soir-là. Avoir un mobile pourrait permettre de répondre à ces questions et pourrait apporter un peu de paix à la famille. Le scénario avancé par la police, c'est celui d'un vol qui dégénère. Bridget, qui a toujours l'argent de ses prestations sur elle en espèces, se fait braquer, mais ça ne s'arrête pas là. Christopher la fait monter en voiture, il abuse ou il tente d'abuser d'elle après l'avoir menée à l'autre bout de la ville, au niveau du parc Oakland. Nue, elle parvient quand même à s'extirper de la voiture, elle court dans le parc, elle fuit pour échapper à la mort, mais elle se fait tirer dans le dos. Comme pour Sylvia Watson, Bridget aurait été enlevée dans sa propre voiture, mais elle n'a pas été amenée à la banque. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé ensuite, et la police n'est visiblement pas pressée de résoudre l'affaire. C'est terriblement frustrant, surtout pour l'entourage de Bridget. D'ailleurs, l'ADN de la deuxième personne présente dans la voiture ce soir-là n'a pas été retrouvé ni sur Bridget, ni nulle part ailleurs sur les deux scènes de crime. On ne sait pas si cette autre personne a participé à l'enlèvement ou au meurtre de Bridget. S'il est encore en vie, ou si elle est encore en vie, peut-être que cette personne a des informations à apporter aux enquêteurs. Pour finir, un mot sur le victim blaming. Dans cette affaire, impossible de ne pas en parler. Un peu partout, à travers les recherches sur cette affaire, on trouve beaucoup d'insinuations sur le fait de décider de mener une vie dangereuse, escorte, prostitution, enfin c'est pas le métier le plus sûr du monde, c'est bien connu. C'est malheureux de devoir le dire, mais c'est pas parce qu'une femme est une travailleuse du sexe, une femme noire qui plus est, oui parce que ça aussi c'est entré en compte dans le jugement que certains ont porté sur Bridget, C'est pas parce que t'es une escorte que tu mérites de mourir. C'est pas normal de blâmer une victime pour son propre meurtre et de dire que si elle s'est marginalisée, elle s'est mise en danger toute seule par sa propre volonté. C'est la personne qui a appuyé sur la gâchette qui est l'unique responsable. Et puisque le responsable est à portée de main, l'effort ne devrait pas cesser pour apporter des réponses dans cette affaire. On espère qu'il n'y a pas d'implication extérieure. Wink wink, Kevin et Brittany, on ne sait jamais. Et on termine avec un fun fact. Le surnom de Christopher, on s'en souvient, c'est Crisco. Pour information, le Crisco, c'est aussi le nom d'une marque de margarine aux États-Unis. Je sais pas pourquoi j'avais envie de terminer avec ça, mais voilà. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle était assez particulière à tourner, celle-là, je te cache pas. Merci pour les personnes qui s'abonnent, qui laissent un commentaire, ça aide énormément la chaîne. C'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.